Social Club, Frédéric Taddeï.
Ce soir, je reçois Mathieu Lindon pour son livre « Je ne me souviens pas ». Mickaël Furnon, alias Mickey 3D, qui sort un nouvel album « C'est beau la vie ». Paul Jorion, qui publie « Le dernier qui s'en va éteint la lumière », un essai sur l'extinction de l'humanité. L'écrivain explorateur Christian Clos, il fait aussi de la bande dessinée. Il va nous raconter le tour du monde de Charles Darwin à bord du Beagle. Charles Carcopino, le commissaire de l'exposition 100% Expo à la Villette du 25 mars au 10 avril. Et Jean-Michel Espitalier pour son petit traité sur les ronds-points. Mickey 3D, est-ce que vous seriez, enfin Mickey, issu de Mickey 3D, est-ce que vous seriez capable de nous dire en quoi le son des années d'aujourd'hui a changé?
Oula, déjà la musique, on n'enregistre plus sur des bandes analogiques. Tout se fait avec les ordinateurs, donc on a perdu beaucoup de chaleur, beaucoup de tout ce qui était chaud dans la musique, et on a gagné beaucoup d'aigus. Avant, sur les bandes, il n'y avait pas d'aigus. Donc tout est pour ça que l'électro marche beaucoup maintenant, tout ce qui tape, tout ce qui est électro, tout ce qui on entend beaucoup dans la musique. Et c'est aussi un inconvénient parce que les radios ne veulent plus de batterie, par exemple.
Pourquoi elles préfèrent quoi?
Elles préfèrent les beats, tout ce qui fait poum poum, tchac tchac, et c'est de plus en plus dur pour un groupe qui n'est pas célèbre aujourd'hui de passer à la radio s'il fait de la musique avec une batterie. C'est un peu triste. Donc les batteries, les guitares, tous ces trucs-là, c'est un petit peu moins bien vu que tout ce qui fait tss poum tss poum. Voilà, les années 2010, c'est parti comme ça.
Mathieu Lindon, qu'est-ce qu'on fait de nouveau pour vous?
Ben déjà, on peut apporter son roman, quelle que soit sa taille, à son éditeur sur une clé USB. Et encore, ça n'en prend même pas beaucoup de place sur la clé elle-même.
Avant, il fallait le porter.
Avant, ça avait quelque chose de plus solennel quand même que de l'envoyer.
Ça pesait.
En pièce jointe.
Ça pesait. Paul Jorion.
Ah ben, nous sommes en train d'opérer le tournant qui fait de nous des gens plus ou moins inventifs, créatifs. Nous sommes en train d'opérer le tournant vers le statut de termite, de guêpe, de fourmi. Dorénavant, nous pourrons entrer dans un centre commercial et il y aura une petite machine qui nous dira « Va acheter cette paire de chaussures là-bas » et si on dit « Oui, mais je suis pas venu pour acheter les chaussures », elle vous dira « Oui, mais dans 33 jours, tu serais venu de toute manière pour aller les acheter, alors vas-y directement » et nous serons très contents et nous serons devenus des termites.
Jean-Michel Espitalier.
Ah ben moi donc je vais parler des ronds-points puisque c'est le sujet de ce livre. Alors étant donné qu'on construit environ 500 ronds-points par an en France, depuis 2000 en fait on a vu l'apparition de 7600 ronds-points, ce qui donne un rond-point installé toutes les 18 heures environ. En réalité beaucoup moins parce qu'il faut enlever les à la nuit et puis les congés hebdomadaires. Ce qui fait que à la fin de cette émission, il se sera construit à environ un sixième de rond-point.
Voilà. Charles Carcopino.
Les outils qui sont à la disposition des artistes ont considérablement évolué.
C'est vrai que vous êtes un spécialiste des cultures et des arts numériques. Hein.
Oui, alors justement, c'est vrai que c'est un secteur qui a été assez florissant et effectivement aujourd'hui, il est tout à fait possible d'avoir accès à des outils qui n'étaient pas du tout disponibles avant, comme des outils de la vidéoprojection, des outils numériques, mais qui également qui ont eu des conséquences pour les spectateurs, puisque beaucoup d'œuvres interactives aussi ont changé la place du spectateur.
Et notamment dans l'exposition dont nous parlerons tout à l'heure. Christian Clos, vous êtes à la fois explorateur et vous faites de la bande dessinée, mais aussi des documentaires et des livres. Alors, quoi de neuf pour vous?
Ce qui a changé, c'est qu'on peut enfin faire des BD d'exploration, parce que la BD touche à tous les sujets et ça c'est bien. Et dans l'exploration, il y a un message d'espoir, c'est qu'on recommence enfin à croire qu'on sait pas tout et qu'on peut continuer de découvrir. Donc ça c'est pas mal.
La BD d'exploration, on va en parler tout à l'heure, c'est notamment la collection que vous dirigez chez Glénat qui s'appelle Explora.
Tout à fait.
Europe 1 Social Club. Frédéric Taddeï.
Mathieu Lindon, vous publiez « Je ne me souviens pas » chez POL. Alors évidemment, on pense tout de suite au « Je me souviens » de Georges Perec, qui a été si souvent copié. Mais vous, ce ne sont pas des phrases courtes, il s'agit de vrais textes. Et surtout, ça s'intitule « Je ne me souviens pas ». Et c'est vrai qu'il y a des choses et des événements dont on ne se souvient pas. Et on se demande pourquoi, et c'est le sujet de votre livre. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a déclenché l'envie chez vous d'écrire « Je ne me souviens pas » ?
Je me souviens du livre que je voulais faire et de comment j'ai réussi à le faire. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire un livre sur des choses dont j'étais pas fier dans ma vie. Quelque chose de biographique sur des événements dont j'avais honte. Ça pouvait remonter loin, ça pouvait être proche. Malheureusement, le choix était assez vaste. Des moments où j'avais le sentiment de m'être mal conduit et que ce sentiment perdurait. Et à la fois j'avais envie de le faire, mais c'était pas très excitant parce que l'idée de me mettre dans ce livre pour être mal à l'aise du début à la fin pendant des mois et des années n'était pas très réjouissant. Donc je remettais ce livre à plus tard. Et un jour j'ai trouvé ce biais qui était de dire oui, en fait c'est les choses dont je voudrais ne pas me souvenir, les choses dont je ne me souviens pas. Et j'ai trouvé le premier qui n'est pas quelque chose dont j'ai honte, mais qui a d'une certaine manière agrandi le thème, parce qu'il y a des choses dont on ne se souvient pas, comme pour des raisons psychanalytiques, parce qu'on a honte, mais il y a des choses dont on ne se souvient pas parce qu'on leur a accordé aucune importance, alors que d'autres gens avec qui elle se passait, ces personnes leur accordaient de grande importance.
Et puis il y a aussi des choses qui ont eu de l'importance, mais dont on ne se souvient pas parce qu'on était trop petit. Par exemple, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est que vous dites, je ne me souviens pas de la première fois où je me suis habillé tout seul, où j'ai choisi mes vêtements, où je me suis acheté moi-même. C'est vrai que moi non plus, je m'en souviens pas. Je me dis, c'est quand même dingue. C'était un événement très important.
Absolument. L'idée, c'était de faire, par rapport à Perec, qui prend des choses de la mémoire collective et qui évoque quelque chose pour tout le monde. Moi, mon ambition, c'était de prendre quelque chose d'ultra personnel, mais qui évoque aussi quelque chose pour tout le monde d'une certaine manière, parce que je pense en effet que tout le monde a été confronté à des choses du même ordre, que ce n'est faire insulte à personne dans le genre humain de soupçonner qu'il y a aussi des moments où ils se sont mal conduits.
Vous commencez par une provocation, Mathieu Lindon, puisque vous dites « Je ne me souviens pas du vase de Soissons ». Alors, on se souvient tous de la fameuse phrase de Clovis, vraisemblablement inventé, souviens-toi du vase de Soissons. Quand vous dites que vous ne vous en souvenez pas, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous ne vous souvenez pas du tout de ce qu'on vous a enseigné à l'école?
Je ne me souviens pas des circonstances exactes de l'affaire de Clovis. On sait en gros de quoi il s'agit, mais on ne sait pas exactement de quoi. Ce qui s'est passé, on se rappellera que Clovis, des années après, retrouve un soldat dont il trouve qu'il s'était mal conduit avec lui avant qu'il soit roi et le lui fait payer cher. Mais on ne sait même plus où on a appris cette anecdote, si elle vient de l'école. On ne sait même pas ce que pédagogiquement elle signifiait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire attention que la personne avec qui on se dispute, elle peut devenir le roi et qu'il faut être gentil avec tout le monde, sinon on va se faire couper la tête. Elle se souvient que... Enfin, je sais pas. Comment dirais-je de... Oui, quelle est la leçon qu'on doit tirer de cette anecdote si c'est à l'école qu'on apprend? Et surtout, ce qui m'a amusé, c'est que quand j'ai fait le livre, j'ai pas voulu relire le livre de Perec en me disant il sera toujours temps de le relire une fois que j'aurai fini, sinon ça va m'emmener sur des pistes
et d'autres. Et ça n'a rien à voir, vous êtes bien d'accord.
Eh bien, il y a une seule occurrence commune entre les je me souviens de Perec et mais je ne me souviens pas, toute proportion gardée, et c'est celle-là que j'avais mis en une. Lui, il met juste je me souviens du vase de Soissons. Mais je dis oui, c'est tout ce qu'on a de l'école, tout ce qu'on est sûr de savoir, qu'on met un S au pluriel ou qu'on emploie l'imparfait pour parler du passé. Il y a un moment où on l'a pas su quand même, et on se souvient pas du moment où elle a appris.
Alors il y a beaucoup de choses dont on ne se souvient pas, notamment vous, Mathieu Lindon. Même la première fois, c'est même votre première fois, c'est en réalité, dites-vous, vous ne vous en souvenez pas.
Je me souviens pas de choses très précises. Je me souviens d'une personne, mais je me souviens pas du sentiment exact, de la nouveauté, de la jouissance. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est qu'un souvenir pour une jouissance? De toutes les manières, ce sont des choses qui n'existent que dans la dans le concret et la réalité, comme on peut dire pour la mort dans un autre.
Après avoir lu votre livre, j'avais toujours eu un doute sur les souvenirs d'enfance des écrivains comme Marcel Pagnol ou Jigé Ballard, qui ont énormément de détails sur leur enfance. Et je me demandais toujours, est-ce qu'ils se souviennent vraiment de quand ils avaient 10 ans? Et après vous avoir lu, je me dis, en fait, ils ont certainement dû tout romancer. Ils se souvenaient de rien, comme Mathieu Lindon, et ils ont tout romancé.
J'en sais rien, c'est aussi une façon de voir le souvenir comme une œuvre conceptuelle de toutes les manières. Je crois ce que je fais dans les « Je ne me souviens pas », il y a aussi ce dont on se souvient, jusqu'où on s'en souvient, et puis le moment où on ne s'en souvient plus, on est obligé d'inventer ou de recréer, mais de toute façon, on sait bien qu'un souvenir, c'est ça aussi dans
c'est une reconstruction.
Mesure.
Il y a des absences de souvenirs qui peuvent vous ouvrir des vides béants. Par exemple, vous écrivez « Je ne me souviens pas de n'avoir pas su parler. Je devais être désemparé. » Et c'est vrai qu'en lisant cette phrase, je me suis dit « C'est vrai, au fond. Moi aussi, je n'ai pas su parler. Comment faisais-je ?»
Oui, en plus, moi, je trouve que ça apparaît dans le livre. Je suis d'une extrême maladresse, peu doué pour tout, peu doué de sens pratique, d'une façon générale. Et donc, le langage m'est d'un grand secours. Et j'ai pitié de moi, ne sachant pas parler rétrospectivement, je dois dire.
Oui, forcément, comment ne pas avoir pitié? Et vous écrivez également « Je ne me souviens pas de pourquoi nous sommes amis ». Alors, c'est pas vrai pour tous vos amis, mais vous pensez à un ami et vous dites « Je ne me souviens pas de pourquoi nous sommes amis ».
Oui, mais ça arrive, non? On est engagé dans une relation, on le voit, en définitive on voit quelqu'un, on n'a pas spécialement envie de le voir, mais on le voit, et puis c'est pas si mal, et puis on se rappelle plus d'où ça vient, cette habitude de le voir régulièrement, mais ça convient, alors somme toute, cette amitié venue on ne sait d'où, on s'en accommode.
Je ne me souviens pas du nom des personnages dans les romans japonais, écrivez-vous. Il y a même pire, je ne me souviens même pas pendant ma lecture que les héros de romans japonais sont japonais.
Oui, bon, je crois que de ne pas se souvenir du nom des héros japonais, tout le monde a fait cette expérience, on pourrait demander autour.
On pourrait le dire pour les Russes aussi, parce qu'ils ont beaucoup sobriqué, les Russes.
Oui,
c'est
mais
terrible.
Les Russes, on se souvient quand même beaucoup mieux, ne serait-ce que parce qu'ils sont dans le titre. Comme je dis, Anna Karenine ou les Karamazov, on connaît leur nom. Mais les héros de romans japonais, on connaît absolument pas leur nom, je crois. Enfin, moi, c'est vrai, j'ai lu beaucoup de romans japonais, j'aime beaucoup la littérature japonaise, mais je ne me souviens du nom vraiment d'aucun. On se souvient pas qu'ils sont japonais, oui, parce que évidemment c'est pas une caractéristique dans les romans japonais d'être japonais. Dans un roman européen, on sait si un personnage est noir ou d'origine arabe, c'est quelque chose de très particulier sur lequel l'écrivain
insiste.
Oui, insiste. Mais les romanciers japonais, ils insistent pas sur leur fait que leurs héros sont japonais. Et pourtant, pour nous, c'est très bizarre. Et comme la littérature japonaise, pour des raisons ou d'autres, est beaucoup plus intégrée en France que la littérature africaine, qu'on le regrette ou pas, ça crée, me semble-t-il, cette bizarrerie.
Page 139, vous écrivez « Je ne me souviens pas de tous les êtres avec qui j'ai fait l'amour ». Vous en êtes fier ou c'est le contraire, vous en avez un peu honte?
Ni fier ni honte, c'est un fait. Non, mais il y en a, je ne m'en souviens pas parce que je ne l'ai jamais su, en plus, leur nom. Il y a des gens que j'ai croisés dans des bars, des boîtes, voilà, j'ai jamais su, ils ont pu me donner un prénom que j'ai oublié, qui pouvait être faux, mais bon, c'est comme ça, ça veut dire un mode de vie, ça veut dire quelque chose d'une époque aussi, je crois, il y a une période où je pense que ça serait pas arrivé, ça.
Alors moi, il y a quelque chose dont je ne me souviens pas, mais vous n'en parlez pas, alors peut-être que vous en souvenez. Moi, je ne me souviens pas comment je faisais pour jouer pendant des heures avec des petits soldats dans ma chambre. J'ai essayé de m'y remettre, votre livre m'a donné envie, et je n'y suis pas parvenu.
Mais, non, mais comme je crois, je dis dans le livre aussi, je ne me souviens pas de ce qui me faisait tellement rire, enfin. Oui. Cet humour m'est devenu plus lointain, je crois.
Je ne me souviens pas, c'est signé Mathieu Lindon et c'est chez POL. Ça va sûrement donner envie à beaucoup de gens de vous imiter, comme beaucoup de gens ont imité Pérec. Hein.
J'en ai peur, oui.
Europe 1 Social Club.
20h, 22h. Frédéric Taddeï.
Mickaël Furnon, votre groupe Mickey 3D sort un nouvel album intitulé « C'est beau la vie ». Le précédent, c'était il y a 6 ans, en 2009. En 6 ans, la France a beaucoup changé. La preuve, cette chanson, je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait. Ça s'intitule « François sous la pluie ». Ça, vous n'auriez pas pu l'écrire il y a 9 ans, ou il y a 10 ans. Ou
non.
Non.
Le pouvoir n'est pas une mince affaire. Et la route est si longue, à la boussole en marche arrière. Tu te perds et puis l'aventure n'a pas de ministère. Une valse à plein temps se danserait-elle de travers? Au soleil, oui, mais là, je te revois, François, sous la pluie, sous le ciel gris de Paris. Là, tu restais là, tu disais merci, même si pour toi c'était mal parti. La critique n'a pas de revolver, mais ses yeux te fusillent au moindre bruit de courant d'air. C'est cruel et puis elle se prend pour le Front populaire. Cette foule infidèle qui veut te fourguer sa colère. C'est normal, oui, mais moi je te revois, François sous la pluie. Est-ce que tu pleures sur Paris? Seul, avec effroi et sans parapluie, les yeux blanchis par mon lit. Dans François sous la pluie, sous le ciel gris de Paris.
Mickey, c'est la première chanson sur François Hollande qu'on écrit ?
Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, c'est un truc qui est venu tout seul comme ça. Une petite valse. Ce personnage qui se promène toujours avec un nuage au-dessus de la tête et qui pleut partout où il va, qui me faisait un petit peu penser à notre pays qui est un peu sous la grisâtre, et j'avais envie de faire une petite valse un peu, je vais pas dire pathétique, mais un truc qui est pas gentil, pas méchant, un peu comme le personnage.
Écrivez les yeux blanchis par l'envie d'en rester là, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Moi j'ai ressenti ça le jour où j'ai vu ce personnage investi sur les Champs-Élysées, le premier jour de son mandat.
Vous voulez pas dire ce président, hein. C'est un personnage pour vous.
Ce président, oui, ce président de la République qui, j'avais l'impression qu'il pleuvait sur lui et qui se disait au fond, dans ma tête, hein, ah ben tiens, j'entrerai bien chez moi, maintenant j'ai fait mon truc, ça y est, j'ai gagné le championnat, et il pleut, j'entrerai bien chez moi, j'arrêterai bien là. Non, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont ressorti ça.
Oui, visiblement, il y en a plusieurs qui hochent la tête en souriant dans ce studio. Il y a une autre chanson qui s'intitule Liberté, égalité, fragilité. La République s'est fragilisée pour vous depuis 6 ans.
Le texte n'est pas de moi, c'est de Naja qui fait partie du groupe aussi, et c'est une espèce de road movie provinciale comme ça, où elle avait écrit. Je lui ai juste volé son papier sur lequel elle avait décrit un petit peu la France comme elle la voyait, avec les chariots à pièces, le chien méchant derrière le portillon, les enfants qui jouent au ballon, espèce de truc qui m'a plu comme ça, un peu poétique, et sur la fragilité un peu de ce qui se passe dans notre pays, sur l'inquiétude des gens, sur tout ça, il y avait un truc cinématographique qui me plaisait là-dedans.
On écoute un extrait.
Ces routes départementales, ces films à accord parental, ces associations de loi 1901, ces collectifs à but non lucratif, les débats télévisés, les apéros les soirs d'été, les plages au sud surpeuplées, les touristes allemands à la peau grillée,
les bus et les quartiers, les commerces de proximité, les rues pavées, les villes fleuries, les villages, les cantonniers. Liberté, égalité, fraternité, fragilité. Tu la connais ? La liberté, l'égalité.
Vous, Mickey, vous la connaissez ? La liberté ? L'égalité ?
Moi, oui, oui. Moi, je suis un petit provincial qui a une petite vie bien agréable. Donc, oui, oui, tout va bien pour moi.
Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 6 années ? Vous étiez où ?
J'ai travaillé. J'ai écrit des chansons tout le temps. Et puis, j'en ai jeté beaucoup à la poubelle.
Là, il y en a 13 sur cet album.
Il y en a 13, hein, oui, mais j'en ai écrit plein que j'ai jeté à la poubelle parce que ça fait bientôt une petite trentaine d'années que j'écris des chansons. J'ai eu un passage où je ne me supportais plus m'entendre.
Ah oui ?
Ouais. Donc,
votre voix ou vos textes, vos paroles ?
Non, j'écrivais des chansons, je les enregistrais, j'écoutais, je disais j'aime bien la chanson, mais le mec qui chante, je ne supporte plus. Je pense que ça arrive à tout le monde, à un moment ou un autre, de plus supporter son activité, son truc, quoi. De plus supporter soi-même, quoi. Donc il a fallu que j'écrive pour d'autres personnes pendant 1 ou 2 ans, pour après avoir de nouveau envie de m'entendre.
Alors justement, vous dites depuis 30 ans, c'est vrai qu'avant de créer Mickey 3D, vous avez commencé à faire de la musique dans les années 80. On a l'impression que c'est une décennie qui ne cesse aujourd'hui d'inspirer les musiciens. C'était si riche que ça, musicalement, les années 80, à votre avis ?
Ouais, je pense quand même. Parce qu'il reste beaucoup de trucs de cette époque, de la pop anglaise. Enfin, ça, tout s'est ouvert, tout a commencé à se mélanger. C'était pas que la musique, quoi. Enfin, moi, je suis un peu nostalgique. Hein.
J'entends un peu les années 80 dans votre album.
Parce que moi, je viens de là. J'avais 16 ans. Je suis né en 70, donc j'avais 16 ans, 86, 88, tout ça. C'était les périodes où on croyait qu'on était dans un beau pays, que le racisme c'était fini, que tout allait s'ouvrir, que tout allait devenir... Enfin voilà, moi c'était la jeunesse aussi. Hein.
Bon, votre album s'intitule « C'est beau la vie », ça s'écrit S-E-B-O-L-A-V-Y. C'est un hommage à Marcel Duchamp, ou enfin à Rose c'est la vie, qui était un personnage de Marcel Duchamp, repris par Robert Desnos.
Qui était inspiré de Pierre de Ronsard, lui, qui avait écrit « Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie ». Donc c'est plus un hommage... Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui me disent « Pourquoi cette écriture texto ?» Je dis non, c'est beaucoup plus un hommage au poète français qu'à Nabila. Moi, tout de suite, quand j'ai écrit cette chanson, C'est beau la vie, j'ai eu envie de l'écrire, C'est beau la vie, parce que je pensais à Rose, c'est la vie, quoi.
Ouais. Vous êtes actuellement en tournée dans toute la France. Vous serez demain à Alençon, puis à Saint-Lô, à Oudin, à Châtenay-Malabry, à Sannois, à Guyancourt. Le 15 avril, vous serez au Trianon, à Paris. Vous êtes heureux sur scène ?
Ah bah oui, moi je fais ça depuis des années et c'est bien dans la musique, c'est que on écrit des chansons, on les enregistre, puis on en a marre, alors on va sur scène et puis quand ça fait du bien, puis quand on en a marre, on réécrit des chansons. C'est un truc, c'est bien.
Je vous propose d'écouter maintenant Après le Grand Canyon, qui est encore un extrait de C'est beau la vie. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette chanson ? Je l'ai beaucoup écoutée, je sais toujours pas ce qu'elle veut dire au fond, ce que vous voulez dire au fond.
Je veux pas dire grand chose. Moi, j'avais écrit il y a 10 ans une chanson qui s'appelait Respire, qui a eu pas mal de succès, qui parlait de la nature et tout ça. Et là, maintenant, j'ai dépassé la quarantaine, je suis un peu plus apaisé et j'avais plus envie d'aller discuter 5 minutes avec Geronimo en lui disant juste si t'étais là de nos jours et que tu voyais ce qu'on a fait de ta planète, comme je dis dans la chanson, tu serais vert, quoi. Parce que c'est une catastrophe ce qu'on fait de notre planète, nous les êtres humains, je sais pas comment on fait, enfin, c'est hallucinant. Et j'avais juste envie d'aller discuter 5 minutes avec Geronimo.
Ben c'est bien, ça fera une introduction au livre de Paul Jorion dont on va parler juste après, qui arrive aux mêmes conclusions.
Europe 1 Social Club,
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce soir avec Mickey 3D, avec Mathieu Lindon, avec Christian Clos, Charles Carcopino, Jean-Michel Espitalier et Paul Jorion. Paul Jorion, vous êtes anthropologue, sociologue, économiste et vous publiez Le dernier qui s'en va éteint la lumière chez Fayard, un essai sur l'extinction de l'humanité. Cette extinction de l'espèce humaine, vous dites qu'elle est probable, qu'elle est même proche, 2 ou 3 générations. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
Ah ben c'est les scientifiques, là, je leur fais confiance. Ils sont plus ou moins optimistes, donc les optimistes disent il y a encore 3 générations, les pessimistes ils disent il y en a plus que 2. Mais enfin, dans l'ensemble, ils sont quand même d'accord.
Ils disent qu'on va vers la destruction des ressources, la pollution de l'air, le réchauffement climatique, la montée des océans, tout le monde semble être d'accord là-dessus. Ouais. Mais personne n'en déduit que dans un siècle, l'espèce humaine aura disparu.
Oui, non, c'est possible. Enfin, ça, je tiens pour acquis. Moi, je suis sorti de mes gonds à propos de ça. Mais c'est essentiellement parce que dans une émission de télévision, on vous prend pour un grand sage. J'ai vu, on s'attend à ce que les grands sages soient des gens qui ont une vision totalement mystifiée sur le monde. On s'attend à ce que vous preniez des vessies pour des lanternes et que tout le monde ait sa manière particulière d'être un peu tordu. Et je me suis dit, bon, il faut lancer un appel à la lucidité. Il faut qu'on sorte de ça. Nous allons tous mourir un jour et notre espèce n'a pas encore tiré les conséquences de ça. On a créé des trucs invraisemblables qui fait qu'on se fait sauter à tous les coins de rue parce qu'on a une vision légèrement différente, tout à fait mystifiée l'une et l'autre. Et voilà, bon, alors il faut... J'ai voulu lancer un cri d'alarme, mais essentiellement, je vous dis, parce que je suis sorti de mes gonds quand on m'a posé des questions en me disant, voilà, racontez-nous comment vous vous trompez comme tout le monde sur la manière dont les choses se passent.
Alors c'est vrai qu'on s'attend à des catastrophes sur cette planète. Vous ajoutez en plus une situation économique et financière que vous qualifiez de désespérée. C'est l'endettement colossal des États, des entreprises, des ménages et des étudiants américains qui vous fait particulièrement peur.
C'est-à-dire qu'on a un système qui est un système capitaliste et puis qui ne se sent plus, mais qui est en train, il part à volo. Les rentiers, on les fait payer maintenant pour mettre leur argent à la banque. On a des taux négatifs. Ce truc est complètement foutu. Il faut bien le dire. On nous parle des mesures non conventionnelles des banques centrales. Non conventionnelles, ça veut dire simplement ils s'arrachent les cheveux. Ils n'ont plus la moindre idée de ce qu'il faut faire. Et le système est en train de s'effondrer petit à petit. Il y aura encore des grands coups d'effondrement comme 2008. Et c'est pour dans pas longtemps certainement. Oui.
Alors Paul Jorion, la question que vous posez, qui est au centre de cet essai, hein, le dernier qui s'en va éteindre la lumière, c'est pourquoi réagissons-nous aussi mollement à la catastrophe annoncée ?
Mais c'est essentiellement, nous avons l'impression de réagir comme il faut. C'est-à-dire, combien d'argent on va faire sur le fait que ça s'effondre? Quel profit on va arriver à faire? Est-ce que c'est commercialement rentable de sauver la planète, etc.? Comme si la question devait se poser dans ces termes-là. Mais c'est comme ça que nous le faisons. Et pourquoi? Parce qu'il y a des prix Nobel d'économie qui nous disent, la pollution, on va échanger le droit de polluer, etc. Et ça va régler le problème. Bon, c'est complètement débile, hein. On expliquerait ça à un enfant de 5 ans. Il verrait bien que ça marche pas comme ça. Mais nous le faisons, nous acceptons n'importe quoi, nous acceptons que notre constitution de nos pays a été remplacée par des règles comptables qui nous disent exactement ce qu'il faut faire, qu'un salaire ça coûte de l'argent à tout le monde et donc il faut jamais en payer, par contre que des bonus aux dirigeants d'entreprise c'est des parts de profit, le profit c'est quelque chose de génial et donc il faut en faire le plus possible, même chose pour les dividendes, pour les actionnaires, et tout ça nous trouvons absolument normal. Voilà, nous sommes dans la matrice, nous sommes dans un tunnel, on voit plus rien de ce qui se passe. Et j'ai voulu un petit peu secouer le cocotier. J'espère que ça aura un écho.
Le cocotier, pour vous, c'est que nous sommes dominés par une élite économique qui, en plus, n'écoute pas les citoyens. Cela dit, est-ce que les citoyens pensent très différemment de l'élite qui les gouverne?
Non, parce que c'est ça le jeu qu'on joue depuis le début. Hein. C'est ce qu'on appelle la servitude volontaire. On vous dit, vous aurez des miettes et ces miettes sont géniales. Et vous dites, finalement, les miettes sont géniales. Il faut se mettre du côté des vainqueurs. Et puis, vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire en 2012 aux États-Unis, sur la richesse qui a été créée dans le pays. Quelle est la partie qui va au 1% au sommet, c'est même pas 100%, c'est 120%. Ils vont encore grappiller sur l'argent qui a été distribué avant. C'est un système absolument en bout de course et nous continuons à nous dire que ça va peut-être, que si on baisse encore un tout petit peu les salaires, les choses vont peut-être s'arranger et on nous passe, heureusement les gens commencent à tout petit peu sortir, je dirais, de leur catatonie, de leur coma et puis vont gueuler contre ça. Même chose pour ce traité transatlantique qui fait que les grosses compagnies vont pouvoir traîner les États devant les tribunaux et les obliger à payer 6 milliards d'euros si jamais on ferme une centrale nucléaire parce qu'elle est complètement pourrie. Ah non, ça coûtera 6 milliards aux contribuables, donc on peut pas le faire.
Alors la question, pourquoi est-ce que nous réagissons aussi mollement à la catastrophe annoncée? Vous émettez l'hypothèse selon laquelle nous sommes particulièrement, nous les humains, mal outillés pour faire face à notre propre extinction. Pourquoi ? Parce que c'est trop brutal, après tout, ça fait que 20 ou 30 ans qu'on parle de cette catastrophe annoncée.
Non, c'est pas ça, c'est parce que nous sommes comme le lapin ou le chevreuil dans les phares de la bagnole. Il n'y a pas qu'eux qui font ça, nous faisons ça exactement de la même manière, et c'est parce que nous sommes équipés d'une certaine manière, d'un point de vue psychologique, notre conscience ne décide absolument pas de ce que nous allons faire, notre conscience c'est un truc qui sert à autre chose, ça sert à la mémoire dont on parlait tout à l'heure, il y a certains qui ont une bonne mémoire et d'autres qui n'en ont une mauvaise, mais nous savons tous que nous avons été, un jour, si nous avons été mordus par un serpent, ben nous ferons très attention, la conscience ça sert à ça, c'est tout. Le reste, la conscience, elle nous permet d'écrire des histoires après coup. Voilà, le storytelling, nous sommes très très bien pour écrire une autobiographie où tout ça commence à faire sens, alors qu'au moment même, c'était un truc absolument délirant.
Il faut attendre la fin, en fait. C'est seulement à la fin qu'on comprend ce qui s'est passé.
C'est-à-dire que quand on est tout près de la catastrophe, à ce moment-là, bon, on va commencer à se rendre compte un petit peu de ce qui est en train de se passer. Les scientifiques nous annoncent, il y a deux jours, que le Gulf Stream va probablement s'arrêter. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir trop chaud, on va avoir beaucoup trop froid. Il y a plein de choses irréversibles qui vont se mettre en place avant que nous ayons la prise de conscience que maintenant il faut vraiment se ressaisir, retrousser ses manches et essayer de, renverser la vapeur entièrement.
C'est une question que doivent se poser les romanciers. Est-ce qu'il faut savoir la fin avant de pouvoir commencer son roman, Mathieu Lindon ?
Moi, je ne fais pas comme ça, mais chacun doit avoir sa manière. Et je pense que le roman amène sa propre fin, mais ce qui n'est pas tout à fait contradictoire.
En fait, ce que vous dites, Paul Jorion, c'est que envisager une catastrophe d'un type entièrement nouveau, ça n'a pas le pouvoir de nous faire peur.
Oui, c'est vrai. C'est ça. Oui. Nous avons notre mémoire se constitue très bien sur des choses que nous avons vécues. Voilà, quand nous sommes passés à travers une catastrophe, on va faire très très attention. Mais pour se représenter un truc, nous appelons abstrait. Nous avons une représentation abstraite de la fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire abstrait ? C'est simplement que nous n'avons pas d'émotions qui sont attachées à ça. Aux choses qui sont vraiment passées, nous avons des émotions qui sont attachées, même si on les réprime plus ou moins, on les refoule plus ou moins. Après, on oublie les circonstances autour. Mais c'est parce qu'il y a une construction qui s'est faite, c'est une défense. Mais nous nous souvenons très bien de ce qui a pu se passer au moment même, et c'est bien parce que ça nous permet de réagir bien. Mais sur un truc qui s'est pas encore produit, on dit qu'on a une représentation théorique ou abstraite. Ça veut dire qu'on nous sommes incapables d'attacher une émotion à cela, et donc nous n'avons pas peur.
Mais pourtant, la catastrophe qu'on nous annonce, elle ressemble à des images que l'on s'est déjà forgées. C'est le déluge, c'est un mix du déluge, de l'arche de Noé, de la disparition de l'Atlantide, et des 40 ans dans le désert de l'exode biblique.
Oui, mais on a l'impression que c'est des histoires. On ne voit pas que ça va se passer comme ça. Si, parfois, il y a des choses. Je ne sais pas ce que je voyais l'autre jour. C'était un film où il disait « N'oublie pas qu'on n'en a pris qu'un sur 10 dans l'Arche de Noé » pour faire réfléchir le gars. Ah oui, c'est une très bonne réflexion.
On se retrouve dans un instant, Paul Jorion.
Europe 1 Social Club.
20h, 22h. Frédéric Taddeï.
Toujours avec Paul Jorion, anthropologue, sociologue, économiste, qui publie Le dernier qui s'en va éteint la lumière. Paul Jorion, qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui ? Alors, vous pensez que l'humanité va s'éteindre, en tout cas vous le redoutez, et que ça soit assez proche de nous. Mais au fond, là, tout de suite, qu'est-ce qui vous fait le plus peur ?
Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il y a une chose qui finalement dont la probabilité n'est pas nulle. C'est que nous transmettions simplement ce que nous savons faire, nous le transmettions à des machines qui nous survivront. Et ça, c'est une idée qui se développe, on en parle beaucoup dans le monde anglo-saxon. Quand on cherche maintenant de la vie sur d'autres systèmes stellaires, on a changé d'attitude. On ne cherche plus des animaux qui se comporteraient d'une certaine manière, on cherche les restes d'une civilisation qui a reconstruit des machines. Voilà, on va dans ce sens-là. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui nous disent très logiquement que le fait que nous devions absorber de l'oxygène toutes les 5 secondes, boire de l'eau toutes les heures, nous reproduire, tout ça, ce sont des contraintes quand même très difficiles à maintenir sur une planète. Regardez sur Mars, on a un robot qui marche très très bien, et bien il n'y a pas d'oxygène, etc. Il n'y a pas de problème. Alors, maintenir des conditions comme les nôtres, c'est très dur, et nous sommes en train de plus savoir comment le faire, mais nous avons des machines que nous avons construites, parce que nous sommes quand même des génies de ce point de vue-là, et celles-là, probablement, nous pouvons les faire assez solides pour qu'elles nous survivent.
Mickey 3D, tout à l'heure on écoutait Après le Grand Canyon, vous êtes aussi pessimiste que Paul Jorion ?
Mais là j'ai envie de me suicider. Parce qu'en plus je crois totalement ce qu'il dit.
C'est bien ce qui me semblait.
Ça m'a fait penser à Terminator, là, quand on voit le monde sous la grisaille avec les machines et tout ça, et on se dit que ça arrivera un jour, mais on pense que c'est très 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 loin.
Vous aussi, Mathieu Lindon ?
On pourrait faire l'économie du suicide, en tout cas. tel que ça se présente.
Au fond, ce que vous nous dites également dans ce livre, Paul Jorion, c'est que nous contrôlons beaucoup moins ce que nous faisons que nous le laissons croire aux autres et à nous-mêmes. Ce serait aussi, là aussi, une des raisons pour laquelle on a beaucoup de mal à réagir face aux catastrophes annoncées.
Oui, c'est ça. Ben, on a commencé à comprendre avec Freud, avec Lacan, comment nous fonctionnons vraiment. Et en fait, c'est toujours une histoire d'arriver longtemps après la bataille. On s'aperçoit maintenant que notre corps prend des décisions 10 secondes, jusqu'à 10 secondes avant de nous informer. Et à bout de 10 secondes, on se dit, tiens, j'ai l'intention de faire une chose, mais le corps l'a déjà fait, ou il est en train de le faire, etc. Et ça, c'est une leçon, et nous sommes équipés comme ça, tous les mammifères le sont, mais une fois qu'on comprend ça, on comprend à ce moment-là que tout le roman, l'autobiographie, tout ça, ce sont des reconstructions après coup, c'est pas comme ça que nous fonctionnons. Et là aussi, ça montre que nous sommes relativement mal équipés pour faire face à ce qui va se produire chez nous, parce que nous sommes bons dans le storytelling, mais pas tellement dans la pratique.
Vous dites, en fait, on est toujours en retard d'une guerre.
Ouais, toujours, ouais.
Christian Clos, vous qui êtes un explorateur d'autres planètes, elle est si mal en point que cela ?
Elle va pas super bien, mais moi je suis un pessimiste qui se nourrit d'optimisme. Donc je vois quand même des choses, c'est que on est des occidentaux qui ont un raisonnement occidental, et puis il y a des tas de gens qui raisonnent pas comme nous. Et quand on commence à voyager sur le monde et qu'on va questionner le monde, on rencontre pas mal de choses, de gens qui effectivement se posent pas de questions, qui pour eux souvent c'est savoir ce qu'ils auront de l'assiette du soir qui compte. Et des fois c'est très pragmatique, mais c'est à la fois très inspirant aussi, parce que quelque part justement ils sont très loin de la machine. Et ils ont un sens à la Terre qui me rassure, parce que je crois qu'au bout d'un moment il y a effectivement une autodestruction de tout ça qui va se créer, mais peut-être que restera ceux qui recommenceront à zéro. Et puis finalement, est-ce que Dieu c'est pas simplement la machine qui a été créée par nos préancêtres et qu'on est en train de faire la même chose? Voilà, c'est un grand cycle.
Paul Jorion, vous disiez tout à l'heure que vous étiez sorti de vos gonds. Ça vous a fait du bien là, d'écrire ce livre? Vous sentez mieux maintenant?
Ah oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Et en plus, c'est un livre qui a été très très rapidement écrit. Les autres m'ont obligé à lire plein de livres écrits par d'autres personnes. Et celui-là, pas du tout. Bon, je me suis assis, puis je l'ai écrit, et c'était terminé, je sais pas, 4 mois ou un truc comme ça.
C'est un joli titre, un peu triste, mais joli. Le dernier qui s'en va éteint la lumière.
Oui.
Ça vient d'où?
Ah, c'est quand j'ai parlé à Madame de Closet chez Fayard, elle a dit comment on appellerait ça.
Ben, Sophie de Closet qui dirige les éditions Fayard.
Ben, j'ai dit pourquoi pas dernier qui. Voilà, c'était une boutade, mais ça lui a plu, moi aussi finalement. Bon, voilà.
C'est un essai sur l'extinction de l'humanité, c'est bien écrit en dessous, hein, pour qu'on se trompe pas. Ça n'est pas une histoire d'amour.
Non, ça c'est Fayard qui a voulu qu'on agite pour qu'il y ait pas de, qu'on ajoute pour qu'il n'y ait pas de malentendu.
Hein. D'ailleurs, vous regardez les êtres humains comme des gens qui sont obsessionnellement obsédés, j'allais dire. Par l'idée de copuler.
Ah ouais,
il n'y a que ça qui nous intéresse au fond.
Ben oui, c'est vrai, oui. Oui. Et alors, mais pas à cause du storytelling, on peut reconstituer tout ça comme étant des histoires d'amour, des trucs très romantiques, etc. Mais il y a un film, là, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ici, qui s'appelle Snow Therapy, et qui me fait par un Suédois, et qui me paraissait vraiment mettre le doigt sur le problème. Nous voulons nous reproduire, maintenir une famille en état de marche, ben c'est une considération relativement secondaire. Nous sommes équipés pour nous reproduire.
On est programmé, voilà, même pour nous reproduire depuis toujours, ouais, comme les animaux.
Et les meilleurs romans, on en parlait tout à l'heure, vous avez cité Anna Karenina, mais les meilleurs romans, c'est uniquement ça. À tout moment, on essaie de se concentrer sur quelque chose, et il y a quelqu'un qui nous plaît, qui passe, etc., c'est terminé, et puis on va essayer de raccrocher plus tard, tout ça, et on raconte des histoires formidables sur j'avais l'intention de faire ça, elle m'a tellement plu, ainsi de suite, et comme vous dites, on se souvient même pas parfois des noms, enfin j'ai une meilleure mémoire que vous,
que celle
mais nous n'aurons pas dû avoir la même existence.
Ouais, j'ai une excellente mémoire, je peux dire.
Et vous écrivez également, Paul Jorion, que nous n'avons pas digéré l'idée que nous sommes mortels.
Non, pas du tout.
Vous y faisiez allusion tout à l'heure. Ouais. En quoi, justement, c'est important dans cette incapacité que nous avons à réagir face à la promesse de la catastrophe?
Parce que nous avons inventé plein de mythologies autour de ça, plein de religions. Et à l'intérieur des religions, il y a des chiites, mais encore les gens vont s'égorger à propos de ça. Nous n'avons pas su digérer cette nouvelle. Ceux qui ont pris, je dirais, la chose le plus au sérieux sont les Égyptiens anciens. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient comme énergie, tout comme réflexion pour essayer de faire qu'on survive. Voilà.
On garde les morts.
Oui, mais ils ont essayé. Bon, ils ont inventé les tout débuts de l'alchimie aussi. On allait trouver des trucs pour. Voilà. Et on en parle encore. Il y a un monsieur qui va l'autre jour et qui explique qu'il y a ici dans les gens, dans la salle, il y a quelqu'un qui va vivre 1000 ans, etc. J'en suis presque sûr.
Bon, c'est Laurent Alexandre. Il était assis à votre place il n'y a pas très longtemps.
Voilà, oui. Bon, il est complètement timbré. Il ne faudrait pas l'inviter. Des gens comme ça. Mais enfin bon.
Il faut relativiser. Milan est un chiffre symbolique.
Non, je plaisante.
C'est l'auteur de la mort.
Oui, non, il faut inviter tous les poètes. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. On aurait dû quand même tenir compte du fait de comment ça marche et puis trouver une vie merveilleuse, mais à l'intérieur des limites qui nous sont données. Et je crois qu'il n'est pas trop tard. Il faut passer à ça. Il y a des tas de gens qui ne croient plus aux fariboles. Mais il faut le faire très, très vite parce que sinon, ce qu'on est en train de faire, on est encore en train d'être saboté par des gens qui sont convaincus que s'ils font ceci ou ça, il y a un monde là où ils vont vivre toujours et où il se passe ceci et cela. Tout ça démobilise par rapport à ce qu'il faudrait faire maintenant. On a que cette planète, on vous montre la science-fiction, on vous dit, bon, bah, il suffit d'aller sur une exoplanète qui est à 10 millions d'années-lumière et on va se remettre là-bas. Mais on sait bien qu'on ne peut pas le faire. Donc il faut le faire maintenant. Il faut garder. On a un truc, c'est très bien, c'est formidable, vu de loin, c'est splendide. Il faut le garder en état de marche, mais on est en train vraiment de le foutre en l'air.
Enfin, attendez, des enfants qui ne croient pas qu'ils sont mortels, on ne pourrait s'en sortir qu'à quelles conditions? De devenir adulte?
Oui, il faut devenir adulte, oui, très rapidement. Il y a déjà eu Auguste Comte qui avait dit ça, et il a cru nécessaire de créer une religion autour de ça, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Mais vous disiez, il y a peut-être un robot qui est le dieu qui nous a créé avant, mais il y a peut-être un robot qui va devenir le dieu qui arrangera les choses plus tard. Espérons-le.
C'était Christian Clos. Il n'a pas l'air d'être convaincu.
Non, je pense qu'on a les ressources en nous pour améliorer les choses. Simplement, faut le vouloir.
Le dernier qui s'en va éteint la lumière, essai sur l'extinction de l'humanité de Paul Jorion. Ça vient de paraître chez Fayard. On se retrouve juste après les infos.
Europe 1 Social Club, Frédéric Taddeï.
Du Social Club ce soir sont l'écrivain explorateur Christian Clos. Il fait rentrer le monde des explorateurs dans la bande dessinée. Il va nous raconter comment. Il y a Charles Carcopino, le commissaire de l'exposition 100% Expo à la Villette du 25 mars au 10 avril. Jean-Michel Espitalier pour son petit traité sur les ronds-points. Il y a également Mathieu Lindon pour son livre Je ne me souviens pas. Michael Furnon, alias Mickey 3D, qui sort un nouvel album. C'est beau la vie. Et Paul Jorion, qui publie Le dernier qui s'en va éteint la lumière, un essai sur l'extinction de l'espèce humaine. Mickey 3D, vous nous avez expliqué tout à l'heure très bien pourquoi le son de la musique d'aujourd'hui est différent. Qu'est-ce qui est en train de disparaître? Alors, vous nous avez dit ce qu'il y avait de nouveau, mais qu'est-ce qui est en train de disparaître pour vous?
La curiosité peut-être. On a aujourd'hui avec sûrement votre forfait téléphone, vous pouvez aujourd'hui écouter 1 milliard de chansons. Et vous allez écouter quoi? Vous savez plus où aller, où chercher, avec les internet et tout ça. Maintenant, n'importe qui peut faire de la musique et le faire découvrir au monde entier. C'est super bien, mais on est un petit peu perdu avec ça. On se faisait passer les cassettes, les trucs, enfin, les vinyles, les machins, on copiait, et puis on se racontait des histoires. On a l'impression maintenant qu'on est devant un espèce de truc, et puis les masses sont un peu guidées vers, on leur dit, tiens, écoutez ça, écoutez tout ça. Écoutez tous ce truc, achetez-le tous, et puis on achète tous le même disque chaque année. Enfin bref, voilà, on pourrait faire une émission de 2-3 heures.
Oui, mais on l'a fait d'ailleurs, sur la longueur. Christian Clos, qu'est-ce qui est tendance à disparaître? Les terres à explorer peut-être, non?
Non, ça y en a encore beaucoup. Je crois que ce qu'on a perdu, c'est le goût du risque. Le goût du risque, pas celui boursier, hein, où on joue avec l'argent des autres, mais celui qu'on a, nous, d'accepter que l'humain, effectivement, est un être mortel et que si on reste assis chez soi ou qu'on compte sur la technologie pour nous remplacer ou qu'on espère que tout ce qu'on fera pourrait être protégé, voire avec un principe de précaution et un risque zéro, alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chance de changer les choses en l'état actuel. Donc si on veut que les choses bougent, il faut y aller. Il faut qu'on se donne les moyens, il faut prendre un goût du risque. Quoi.
Mathieu Lindon?
Les manuscrits, comment on fera des expositions sur les écrivains maintenant? Avant, on était émus de voir leur écriture, c'était une façon d'écrire en plus qui a dû disparaître aussi, d'écrire à la main, mais à la fois avant, les gens écrivaient à la plume et on a trouvé ça démodé très vite. Maintenant, ils n'écrivent plus au stylo non plus. Et voilà, mais c'est sûr que
ils publient des petites vidéos sur Facebook. Imaginez si on avait pu voir Scott Fitzgerald et Hemingway se bourrer la gueule au Ritz, par exemple. On avait un petit film, on serait ravis.
Certes, et enfin, je disais pas ça en mauvaise part. Non, c'est certain que si et Ronsard, et oui, ça rêver. Serait formidable.
Ça fait moins rêver.
Là, l'idée d'avoir Ronsard sur en vidéo, ça fait rêver quand même.
Eh ben, vous seriez peut-être déçu. Il était con, en fait.
C'est possible, mais alors il vaut mieux ne rien avoir du tout. En effet, on restait purement et simplement aux livres tels qu'ils sont publiés. Je suis assez favorable à ça.
Jean-Michel Espitalier, qu'est-ce qui a tendance à disparaître? Pas les ronds-points, en tout
pas
cas.
Pas les ronds-points, non.
Non,
en fait, on parlait un petit peu de la question de la pénurie de finalement qui s'épuise. Moi, je pense que ce qui a disparu, c'est l'idée de l'an 2000. C'est-à-dire, si on fait un peu de rétrofuturisme, finalement, tout le XXe siècle au moins, en fait, a vécu sur cette espèce de fantasme un peu millénariste. Qu'est-ce qui va se passer en l'an 2000, le bug. Et finalement, on se rend compte que c'est évidemment un très grand échec, parce qu'on va toujours pas au bureau, dans un aéronef privé, les Martiens n'ont pas débarqué, on meurt toujours du cancer à 50 ans. Enfin voilà, les choses en fait sont toujours à peu près en l'état.
Les donc, voitures fonctionnent exactement comme un siècle avant.
Oui. Alors
terrible.
Si, bien sûr, il y a Internet, il y a tout ça, bien, évidemment. Mais en tout cas, c'est vrai que cette espèce de grande religion fantasmatique du demillénarisme en fait a échoué. Et c'est peut-être on est peut-être un petit peu orphelin de ça, de ce fantasme.
Charles Carcopino.
Moi, j'ai envie de rebondir sur la mémoire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous des téléphones portables, des smartphones qui nous permettent d'accéder à de l'information en permanence, en direct. Donc, effectivement, qui va retenir encore des choses un peu insignifiantes, comme des numéros de téléphone, par exemple, ou ça peut être... en fait, on a toujours cet accès comme une espèce de source infinie de ressources et qui viendrait pallier à chacun de nos manques. Donc... finalement, ouais, on est quand même aussi extrêmement sollicité par les images en permanence, donc peut-être aussi cette capacité à garder des souvenirs ou des émotions.
Paul Jorion.
Si on a perdu, à mon avis, justement, ce rêve de l'an 2000, c'est parce qu'il y a une chose qu'on avait mise entre parenthèses, c'est le fait qu'on imaginait que tout ça, tout ce qui allait se faire, allait être partagé entre tout le monde. Or, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a rendu l'an 2000 impossible, c'est que le capitalisme a perdu ses bonnes manières, il n'y en a plus du tout, il se conduit vraiment comme un gougnafier, et c'est ça qui nous a empêchés d'avoir l'an 2000. Sinon, on se disait, on travaillera presque plus, mais on ira avec les enfants à la pêche et tout ça, mais ça, c'était si la richesse créé par les machines était partagé entre tout le monde. Et ça n'a pas eu lieu. Ça contribue uniquement à multiplier les bonus des dirigeants d'entreprise par un facteur de 450 par rapport au salaire moyen de leur entreprise. On gonfle les dividendes qui sont donnés à ceux qui avaient l'argent dès le départ. Mais celui qui est remplacé par la machine, il n'en bénéficie absolument pas. Au contraire, on le culpabilise. On dit c'est de votre faute, vous avez perdu votre boulot, trouvez-en un autre. Alors que le travail disparaît parce qu'on le voulait. On voulait en 1950 que l'an 2000 soit un moment où on travaillerait plus, mais on travaillerait plus pour être heureux, pas pour être malheureux.
Europe 1 Social Club.
20h, 22h. Frédéric Taddeï.
Christian Clos, vous êtes explorateur, écrivain, documentariste, et en plus vous dirigez la collection de bandes dessinées Explora aux éditions Glénat, qui consiste en quoi exactement d'ailleurs? Expliquez aux auditeurs du Social Club.
En deux mots, raconter un moment de vie des plus grands explorateurs, des découvreurs, des gens qui ont créé le monde d'aujourd'hui finalement. Parce que l'exploration, c'est repousser des limites, c'est comprendre les choses et ces grands noms qu'on connaît. Alors c'est un peu comme l'histoire du vase de Soissons. On connaît tous le nom de Darwin, on connaît tous le nom de Magellan, on connaît tous le nom de Marco Polo. C'était qui ces femmes, ces hommes? Et puis souvent, les moments les plus clés de leur vie, on les a oubliés. Donc j'ai voulu le raconter.
Et la bande dessinée s'y prête bien?
C'est extraordinaire. Imaginez vouloir faire un film sur Magellan. Vous devez reconstituer 5 bateaux, 240 figurants pendant 5 ans. Enfin bon, c'est impossible.
Ou Alexandra David Nel sur les routes de Lhasa. Voilà, on ne peut plus tourner là-bas.
Imaginez le Potala aujourd'hui. Il faudrait le recréer entièrement. Voilà. La bande dessinée, ça a cette force qu'on peut tout faire. Si je veux faire sauter 3 bateaux, je peux le faire. Si je veux recréer des choses qui ont existé, je peux le faire. Et c'est vrai que le talent des illustrateurs aussi, des dessinateurs, permet de rendre non seulement la réalité de ce qui a été, mais de le créer en plus avec un imaginaire nouveau. Parce que l'imaginaire, on en a besoin, ça c'est sûr.
Alors il y a une tradition pédagogique, hein, des illustrés des années 60 faisaient le même travail que font aujourd'hui les éditions Glénat à travers vous,
ouais,
Christian Clos.
On espère qu'on le fait mieux.
Mais... non mais vous vous souvenez sans doute des belles histoires de l'oncle Paul dans ce
Pierrot. Non mais il y a...
C'est ça qui racontait les inventeurs, les explorateurs.
On a toujours eu besoin de rêver et de croire malgré tout, même si les choses vont très mal, je pense qu'on a besoin de croire en demain. Si on croit plus, si on perd le goût de l'émerveillement, si on perd le goût justement du risque de vouloir aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas encore mais qu'on veut quand même aller voir, si on perd tout ça, alors effectivement on peut s'arrêter, on peut s'asseoir puis on peut se laisser mourir.
Alors, je me souviens, moi, par exemple, des aventures de Stanley Livingstone, ouais, dessinées par Victor Hubinon avant qu'il ne dessine Barbe Rouge. Ça m'avait passionné quand j'étais petit. J'imagine que c'est pour ça qu'il n'y a pas Stanley Livingstone dans votre collection.
Non, il y aura.
Ça a été fait.
Tout a été fait. Beaucoup de choses ont été faites.
Pas Darwin.
Alors, ça, c'est vraiment la grande surprise. Alors, David Neil, il y a deux albums qui sortent en même temps, coup sur coup, presque à un mois d'intervalle sur deux éditeurs différents. Donc, tout d'un coup, ces personnages reviennent au goût du jour. Et Darwin, étonnamment, alors ça je sais pas pourquoi, il n'y a jamais eu de BD, peut-être aussi parce qu'on pense que vouloir raconter l'intellectuel est impossible en BD, et ça change aussi parce que maintenant on voit que Darwin, comme tout le monde, tout chercheur, que ce soit Einstein ou un penseur ou un poète, a d'abord été un humain, avec une vie, avec de l'amour, avec de la passion, avec de la haine, et que si on raconte ces histoires d'humains, quelque part on peut tout dire.
Alors, il y a trois albums qui sont sortis ce mois-ci dans votre collection, dans la collection Explora. L'un est consacré à Alexandra David-Neil sur les chemins de Lhasa au moment où elle quitte l'Europe. On est en 1911. Elle promet à son mari qu'elle reviendra au maximum dans 18 mois. Et en fait, elle va mettre 13 ans pour atteindre Lhasa.
Elle y va à pied, faut dire. Hein. Donc,
oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est extraordinaire. Elle arrive à Lhasa, donc, qui est la Rome de l'Extrême-Orient pour elle. Et elle y arrive à l'âge de 55 ans après un voyage de 11 ans.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a commencé à voyager tard finalement, et ça montre que rien n'est jamais fini. Elle est d'abord partie pour comprendre la notion même du bouddhisme et de ce que représente la philosophie de cette idée extraordinaire. Et elle a fait ça mieux que personne parce qu'elle a accepté de passer par exemple 3 ans dans un monastère à étudier des anciens textes et à aller chercher à les comprendre. Et ça, aujourd'hui, on le fait plus. Qui va encore aller 3 ans quelque part pour étudier un texte?
On peut l'avoir sur Internet, le texte.
On peut l'avoir sur Internet, mais néanmoins, la compréhension, elle se fait par la méditation et par la compréhension du terrain. Moi, je crois que c'est ça que l'explorateur apporte. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est pour ça que j'ai voulu raconter ces histoires. C'est que, à un moment donné, le terrain nous apporte des choses que rien d'autre ne peut nous faire comprendre. Quand je suis sur un endroit où personne n'a encore mis les pieds, où tout système humain a disparu, où il n'y a même pas un avion qui passe dans le ciel parce que les systèmes sont trop complexes, on ressent de nouveau, je pense qu'a pu ressentir David Neil à l'époque, une puissance extraordinaire qui émane de ce qui nous entoure. Alors ça n'a aucune version religieuse là-dedans, hein. C'est juste une puissance qui nous nourrit et qui nourrit les plantes, les roches, les animaux. Et ça, on le ressent de nouveau. Et je crois que c'est ce que nous raconte David Neil.
Alors, il y a le deuxième album, il est consacré à Darwin, qui à 22 ans embarque sur le Beagle pour faire pendant 5 ans le tour du globe. C'est de ses observations qu'il déduira ensuite sa théorie de l'évolution. Celle-ci, vous en êtes le scénariste. Hein,
pourquoi ça pour moi
oui, pourquoi?
Non, parce que d'abord, j'ai été dans beaucoup d'endroits que narre cette BD, en Amazonie, dans les Andes, en Terre de Feu. Et qu'au fur et à mesure de ces voyages, j'ai vu des choses qui m'ont questionné, intrigué, encore aujourd'hui, des animaux qui est surprenant, étonnant, et je lisais Darwin en même temps. Et je me suis posé la question réellement au milieu de la forêt amazonienne, pourquoi, comment Darwin a su trouver cette idée extraordinaire de la lutte pour la survie et à la fois de cette merveilleuse idée de l'évolution. Et comme tout le monde, je voyais Darwin avec une longue barbe blanche, grand penseur visionnaire qui voit au loin, et je me suis dit, il a dû trouver ça instantanément, c'est génial. Et puis en fait, on réalise que pas du tout. C'est comme tout un travail de longue haleine.
Et puis surtout, il a 22 ans à ce moment-là, il sort de Cambridge.
Et puis surtout, il est destiné à être pasteur quand même, pasteur de campagne. Il n'est pas du tout destiné à devenir ce grand homme. Au contraire, c'est un homme plutôt timide, plutôt discret, qui a juste une passion pour la découverte, pour les collections. Et il part sur le Beagle presque par hasard, ça se fait en un mois, du jour au lendemain, elle se retrouve sur ce bateau et effectivement, ça va changer sa vie. Et ça, c'est ce que j'essaie de raconter dans la bande dessinée, mais ça va surtout changer la vision du monde.
Ça, c'est sûr. Les dessins sont de Fabio Bono, le scénario est de Christian Clos, Darwin à bord du Beagle. C'est juste le premier volume, hein. Il y en aura un deuxième. Paul Jorion.
Si on va à Cambridge, il y a une belle promenade à faire, c'est aller à la petite église de St. Giles sur la Huntingdon Road. Et là, on va trouver pratiquement côte à côte la tombe de Darwin et celle de Wittgenstein.
Alors le troisième album qui sort ce mois-ci dans votre collection, il est consacré à Arthur Rimbaud qui a 21 ans, cesse d'écrire et part. Là c'est Arthur Rimbaud en Abyssinie, une région qui est dangereuse et inexplorée de l'Éthiopie à l'époque. Est-ce qu'il y a encore des régions dangereuses et inexplorées? Vous nous disiez plein tout à l'heure, Christian Clos.
D'abord alors... Dangereuse, déjà, il faut relativiser la notion du danger, parce que finalement, c'est nous qui créons le danger la plupart du temps, hein. C'est comme par rapport aux nations où on va, aux peuples qu'on rencontre. Si on se met en danger par rapport à elles, c'est souvent qu'on a mal agi par rapport à elles. Donc, il faut relativiser cette notion du danger. Mais oui, l'Amazonie, les montagnes, certains secteurs montagneux, tous les fonds marins, toute la croûte terrestre, et puis, tous ces endroits sont inconnus, et puis il y a tous ceux qu'on croit connaître. C'est un peu comme les grands personnages ou le vase de Soissons. On pense qu'on sait, puis quand on y va vraiment, on ne sait pas grand-chose. Et c'est ça aussi qu'on doit faire, c'est accepter la notion que si on pense tout connaître, on a une prétention extraordinaire et qu'il faut savoir revenir en arrière.
Mais vous, Christian Clos, en 2006, vous aviez 43 ans, si j'ai bien compté.
Non, en 2006, un petit peu moins. Je suis né en 72, mais je me suis sauté tout d'un coup.
C'est aujourd'hui que vous avez 43 ans. Donc vous aviez 33 ans, vous avez été le premier homme à entrer dans le centre de la cordillère Darwin au Chili, en Terre de Feu. Vous en avez tiré un livre, d'ailleurs, Ultima Cordillera, la dernière terre inconnue. Qu'est-ce que ça fait de se dire, là où je suis, aucun homme avant moi n'a posé le pied?
C'est une sensation purement intellectuelle, mais qui est phénoménale au moment où on le vit, pas tellement parce qu'on est le premier, parce que finalement on peut être le premier dans plein de choses, mais parce qu'on a travaillé des années, parce qu'on a créé, parce qu'on a dû comprendre, parce qu'on a cherché, et puis qu'un jour, tout d'un coup, ce qu'on a rêvé, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a projeté se réalise. Et sur cet instant-là, il y a une plénitude absolue qui se crée. Il y a un vide total aussi qui peut, je crois, qui est très poétique, qui nous fait dire tout d'un coup, mais et maintenant, quel est le prochain pas? Parce qu'on a cette impression qu'on a fini quelque chose. Et c'est tous ces sentiments qui se mélangent dans un décor extraordinaire, parce qu'en plus, la cordillère de Darwin, c'est un mélange de montagnes, de forêts, de glaciers, de mers et de parties désertiques pampa au loin. Donc, on a toute l'origine du monde au même endroit, et on y est seul, et tout d'un coup on réalise que on est quelque part, et c'est très prétentieux, un représentant de l'humanité à cet endroit, et que on a deux solutions maintenant. Soit on en parle et on le détruit parce que d'autres viendront, soit on fait attention de le préserver. Moi, j'en ai parlé.
Et ce qu'ont fait aussi ceux qui ont servi de héros à ces trois albums, que ce soit Darwin, Rimbaud ou Alexandra David-Neil. Je rappelle que la collection s'intitule Explora, que c'est une collection des éditions Glénat et que ces trois albums donc sont disponibles en librairie.
Europe 1 Social Club.
20h, 22h. Frédéric Taddeï.
Jean-Michel Espitalier, je pensais à vous parce que vous êtes écrivain, vous êtes poète et vous êtes batteur aussi, je crois. Ouais. Hein, et quand, quand on a appris tout à l'heure
parce que jamais à la radio
que la batterie ne passait pas à la radio, ça a dû vous faire de la peine, non? Ouais, alors vous publiez.
On a toujours été malmenés les batteurs.
Vous publiez Tourner en rond aux Presses universitaires de France. C'est un petit traité sur les ronds-points. Ça vous a pris comment de vous intéresser aux ronds-points, au point d'en faire tout un livre?
Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est la banalité de cet objet, quasiment un peu ridicule. Et puis, c'est une sorte de pari, mais je crois que c'est le pari d'à peu près tous les écrivains. C'est de générer de l'écriture. À partir de à peu près n'importe quelle chose. Je pense notamment à Francis Ponge, par exemple, assez parti pris des choses.
Et c'est presque un défi qu'on se lance.
C'est presque un défi qu'on se lance. Et puis en fait, c'est là aussi où on se rend compte que la littérature est une chose extraordinaire, en ce sens que Si on se met à travailler, à réfléchir, à produire des énoncés sur un objet, enfin sur à peu près n'importe quel objet, il se passe des choses. Et effectivement, on découvre, parce que j'ai découvert beaucoup de choses sur les ronds-points, et derrière les ronds-points, évidemment, sur la façon de tourner un rond, sur c'est finalement une sorte de philosophie de l'absurde, en quelque sorte.
Alors des ronds-points, il y en a à peu près partout aujourd'hui, sur les routes de France, notamment à l'entrée des municipalités, ça date d'à peu près 30 ans. Mais est-ce que ça n'avait pas existé avant? Vous êtes allé aux origines.
Oui. Alors bon, j'en parle un petit peu. En fait, c'est pas une ode à la DDE, hein, ce livre. Mais c'est oui. Alors les premiers ronds-points en fait étaient des ronds-points ruraux, campagnards, puisqu'en fait c'était des espaces aménagés pour les chasseurs, hein, pour les chasses à cours, et puis aussi pour ménager des perspectives de vue donc dans les jardins. Et puis c'est arrivé sur les routes. D'abord dans les villes, oui, absolument. Alors je parle de ronds-points naturels, parce que dans un monde où les ronds-points sont dans leur écrasante majorité des ronds-points artificiels, c'est-à-dire fabriqués par l'homme, il y a des ronds-points naturels qui sont des ronds-points où la circulation automobile en fait s'est mise à tourner autour de colonnes, de
l'Arc de Triomphe,
l'Étoile, le Génie, place de la Bastille, etc., place de la République. Donc là, il y a quelques ronds-points naturels dans les villes, mais dans leur grande majorité, effectivement, les ronds-points sont artificiels.
Et les ronds-points, d'ailleurs, sont souvent interdits aux piétons, hein, vous le remarquez, ils ne peuvent pas traverser, comme ça, c'est un lieu déshumanisé, à caractère éminemment automobilistique.
Alors c'est ça le paradoxe, et c'est en ça aussi que cet objet est assez, enfin est intéressant. Moi j'aime beaucoup les paradoxes. Je travaille aussi beaucoup dans mon écriture sur le paradoxe, sur la logique, sur le syllogisme, enfin sur des choses aussi qui tournent et qui se mettent en, qui se mordent la queue. Et le rond-point, je le dis, le rond-point est bio. Il y a un petit côté bio et donc il est très, c'est souvent assez attrayant, enfin faussement attrayant. C'est à la portée de chacun. Et en même temps, c'est vrai que on n'a pas le droit d'y aller. Le paradoxe, c'est que on a l'impression que une espèce de grande liberté, c'est très fluide. Chacun gère sa propre circulation, etc. En fait, c'est un lieu qui est contrôlé, enfin qui est hyper contrôlé par toute une série d'interdits et d'obligations. Donc c'est un faux espace de liberté, ce qui dit bien aussi le monde contemporain. Enfin,
le rond-point est un dispositif ultra-libéral, c'est pour ça certainement que Paul Jorion doit détester les ronds-points.
Ouais.
Mais vous précisez qu'il s'agit d'un ultra-libéralisme à la française.
Hein. Parce qu'il est un peu contrôlé.
Il est quand même très contrôlé. Alors pourquoi il est un dispositif ultra-libéral? Parce que c'est vrai qu'il y a l'initiative individuelle, on est là, on se dit je peux m'engager dans le rond-point.
Le résultat, enfin, le culte du résultat.
Il y a une libre concurrence, il y a la primauté donnée à la circulation, c'est pas régulé par des feux, en tout cas pas les ronds-points qui se trouvent dans la campagne, mais c'est vrai quand même qu'en réalité c'est extrêmement réglementé, à la française. Ouais.
Et c'est aussi un objet qui, je le dis quelque part, qui est aussi finalement qui peut résumer... très peu, mais qui peut résumer finalement ce passage dont parle Foucault, hein, de la société de l'enfermement, de l'interdiction, à une société du contrôle. Et sur le rond-point, d'ailleurs dans la circulation automobile, mais sur le rond-point, on se contrôle soi-même, on est contrôlé par les rétroviseurs des autres personnes, il y a souvent des caméras, et on se contrôle parce qu'effectivement, il faut éviter donc les autres automobilistes, etc. Donc il y a quelque chose de l'autocontrôle, et finalement, c'est assez inquiétant parce que on a l'impression qu'aujourd'hui, cette espèce de liberté totale qu'on nous donne, elle va avec une sorte de flic qu'on nous met dans la tête.
Alors, il y a certainement des auditeurs en ce moment même du Social Club qui sont en voiture et qui peut-être sont en train de ralentir devant un rond-point. À quoi ça sert un rond-point ? D'abord à nous faire ralentir ?
À nous faire ralentir, je pense que justement, c'est pour masquer. En fait, on a... ça pourrait peut-être correspondre à cette interdiction d'interdire. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, le feu rouge ou le stop est politiquement incorrect. On n'interdit plus les choses.
On vit ça comme une violence.
Voilà. Aujourd'hui, on favorise une sorte de circulation. C'est pour ça que je parle d'ultralibéralisme pour le rond-point. On favorise le fluide, la libération, la circulation ininterrompue. Voilà. On n'arrête plus les choses. On n'arrête pas le flux.
Mais en même temps, vous dites qu'il fait de la route un nœud. Ce rond-point.
Mais continue, parce qu'en fait, c'est un nœud qui dénoue, en fait.
C'est un nœud qui dénoue, effectivement.
C'est un dénouement, parce que c'est aussi un espace d'information.
Donc le rond-point délivre un discours. Hein. Sur le rond-point, en général, on voit où on peut aller. Hein. Direction Moulins sur Allier, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Marseille, etc. Donc c'est aussi un lieu. On arrive donc quand on va arriver sur le rond-point, parfois on ne sait pas trop où on va aller, et le rond-point va donner la solution.
Vous dites également que c'est un sens giratoire qui se mord la queue.
Oui, c'est ça. Et c'est en ça que je reviens à cette idée de, enfin, à l'une de mes marottes. Enfin, moi, je travaille beaucoup sur l'absurde. Et c'est aussi quelque chose, en fait, si on y entre, c'est seulement pour en ressortir. Il y a quelque chose d'extrêmement absurde dans ce mécanisme.
Mais vous en avez fréquenté beaucoup des ronds-points ou toujours le même? Parce qu'au fond, on peut rester indéfiniment sur le même rond-point.
Ouais. Et là, on est dans le mythe de Sisyphe. Ouais, donc ça dit aussi beaucoup de choses. Ouais. Non, j'en fréquente. Je suis pas un grand amateur. D'abord, j'ai pas de voiture.
Hein. Ah oui, donc, évidemment. Ouais, sans voiture, on peut pas aller sur les ronds-points.
Ça perturbe beaucoup les gens quand on reste dans le rond-point. Moi, je me suis amusé une fois à tourner pendant plusieurs minutes dans un rond-point, et les gens, ça les perturbe énormément. C'est conceptuellement hors du.
Oui, parce que vous avez la priorité, donc ils ne peuvent plus passer.
C'est ça.
Et vous êtes engagé.
Sauf à Paris. Sauf à Paris.
On voit que Mickey, lui, a une voiture et qui conduit.
Non mais moi dans ma vie, il y a un tout petit rond-point, mais vraiment tout petit avec plein de trucs carrés, et il y a toujours des cars, plein de voitures, et je suis étonné, il n'y a jamais eu d'accident. Pourtant, l'endroit le rond-point est tout petit et il y a plein de routes carrées.
Non mais parce que c'est aussi effectivement. C'est un espace pacifié. C'est une sorte de paradis terrestre. Alors, y compris avec, en général, cette espèce de, enfin, le qu'on appelle ça, le terre-plein central, en fait, hein, qui est souvent décoré, alors avec des goûts tout à fait douteux parfois. Il y a aussi donc c'est une espèce de d'abondance du kitsch. Et autre paradoxe, par exemple, en fait, c'est un paysage en fait qui est offert à la vision de celui qui l'emprunte, et en même temps on nous demande de regarder la route, donc il y a aussi une sorte d'effet, c'est assez compliqué, ce rapport très paradoxal à la sécurité aussi.
Mickey
sur le rond-point
dit qu'il n'y a jamais d'accident, mais ça arrive parfois qu'il y en a quelques-uns,
mais il n'y en a pas de mortel, il n'y a pas de mortel.
À Paris sur les gros ronds-points, mais moi j'ai été étonné que ce petit rond-point, je me suis toujours dit c'est mal foutu ici, et voilà. Donc ça veut dire que tout le monde quand même arrive à tac 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 tac.
Comme dit Jean-Michel Espitalier dans Tourner en rond, donc son livre, il dit s'il y a un accident sur un rond-point, c'est que quelque chose a mal tourné.
Bah oui.
Je vous propose d'entendre un autre extrait du nouvel album de Mickey 3D. La chanson qui donne son titre à l'album, c'est Beau la vie.
Europe 1 Social Club.
Regarde un peu les survivants. Ils ont des larmes au fond des dents. Changer d'autoroute, mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ne fais plus confiance à personne. Tcha, tcha, tcha.
C'est Beau la vie, et c'est sur Europe 1, et c'est le titre du nouvel album de Mickey 3D. Il est l'un des invités de Frédéric Taddeï ce soir sur Europe 1. 20h, 22h,
Europe 1 Social Club.
Frédéric Taddeï.
Jean-Michel Espitalier, dans Tourner en rond, votre livre sur l'art d'aborder les ronds-points qui vient de paraître aux presses universitaires de France, vous écrivez que chaque rond-point nous connecte avec le monde dont il devient en quelque sorte le centre.
Oui, alors ça c'est pareil, moi j'ai écrit un petit essai par ailleurs sur le binaire ici-là-bas. Et donc je reprends un petit peu cette idée de il y a toujours un seul ici et une multitude de là-bas. Et c'est vrai que le rond-point peut nous connecter avec quasiment toutes les villes du monde.
À partir
où il y a
de
pas
n'importe
de mer,
quelle rentrée.
Où il n'y a pas de mer, voilà. Sauf le rond-point lui-même. C'est-à-dire qu'on peut aller n'importe où sauf sur le rond-point.
Et il nous fait tourner autour d'un centre qui n'est là que pour que nous tournions autour de lui. Sinon, il n'y a pas de centre, normalement. Ouais, le centre a été inventé en même temps que le rond-point.
Virtuel, absolument.
Ouais. Ça n'a rien à voir avec l'échangeur d'autoroute.
Alors, c'est même un peu leur contraire. Enfin, c'est peut-être le bon côté de la connexion, justement. Ce que je dis, c'est que l'échangeur est très... D'abord, il est bâti avec les matériaux de la modernité, c'est-à-dire le fer, le béton, etc. Il est étagé, ça ressemble parfois à une cage, à un squelette de cathédrale, enfin quelque chose de très dur, il est peu accessible. Hein, quand on est à pied, on peut pas aller on peut pas grimper sur un échangeur, c'est très compliqué. Et puis d'abord, il est souvent construit dans une zone qui elle-même est peu accessible. Alors que le rond-point, il est là, il est à portée de la main. C'est en ça qu'il est paradoxal, c'est qu'il est interdit aux piétons et en même temps, il est très humanisé.
Et pourquoi il n'y a jamais de radar sur un rond-point ?
Parce qu'on peut pas aller très vite sur un rond-point.
Oui, c'est fait pour nous en empêcher, c'est vrai.
Notamment grâce aux gendarmes couchés, hein, qui sont ces espèces de dispositifs bombés qui empêchent de bomber.
Et qui sont maintenant souvent remplacés par des matelas berlinois, vous savez, qui sont plutôt carrés et plats. Alors, il y a une rumeur insistante, hein, selon laquelle si les ronds-points ont poussé comme des champignons depuis les années 80, c'est pour faire des fausses factures, verser des commissions et toucher des sous de table. Vous n'y faites aucune allusion, ça veut dire que...
C'est la même chose pour ceux qui écrivent des livres sur les ronds-points.
C'est pour cette raison, vraiment.
Non, ça, c'est pas du tout ma... Là, je suis plus compétent sur l'absurde que sur les ronds-points eux-mêmes.
Oui, vous en foutez au fond du rond-point. On aurait pu vous imposer n'importe quel sujet, vous l'auriez traité exactement de la même manière. Tourner en rond, de l'art d'aborder les ronds-points, c'est paru aux Presses universitaires de France et c'est signé Jean-Michel Espitalier.
Avec toi. Je veux rester avec toi.
Restez avec toi sur Europe 1 et c'est signé Les Fils du Calvaire, un gang de pop inséparable depuis 20 ans. Jonathan, Damien et Clément nous proposent ici un premier album pop sexy intitulé Fils de, sorti récemment et qui mêle humour, élégance et séduction très très ostentatoire. On entend ici la voix en featuring de la DJ et productrice électro Miss Keating et justement vous retrouverez Miss Keating et Jonathan mercredi dans l'Europe 1 Social Club pour parler de ce premier album.
Europe 1 Social Club.
20h, 22h, Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Jean-Michel Espitalier, avec Mickey 3D, Mathieu Lindon, Paul Jorion, Christian Clos et Charles Carcopino, qui est un spécialiste des cultures numériques, lui-même vidéaste, et qui est le commissaire de l'exposition 100% Expo, qui a lieu à la Grande Halle de la Villette pendant 3 semaines dans le cadre du festival 100%, qui a lieu, lui, dans tout le parc. Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors c'est un projet qui a été initié par le nouveau président du parc, Didier Fusier, qui est arrivé en juin. Et l'idée à terme de ce festival, c'est justement d'investir la totalité du parc, donc les 55 hectares. Donc là, c'est une première édition, on n'y est pas encore tout à fait.
Et vous, vous êtes juste dans la Grande Halle?
Ah non. On a trois lieux d'exposition. Une folie, ce qu'on appelle les folies, ce sont ces pavillons de Bernard Tchoumi. Le grand projet, c'est également de les réhabiliter. Hein. Il y en a 26, donc ça va être avant de pouvoir les faire vraiment découvrir au public. Et c'est quand même un petit chantier qui a été lancé. Là, on en a une, et on a également ce qu'on appelle le WIP, anciennement l'ancien pavillon vétérinaire en fait, qui est au niveau de la porte de la Villette. Donc il y a un axe.
Il faut se souvenir que c'était l'abattoir de la Villette, donc il y avait aussi des pavillons vétérinaires tout autour.
Tout à fait. Et donc en fait cette exposition c'est un parcours d'installation qu'on a voulu à l'échelle du parc et qui a pour but de finalement qu'on soit un peu comme un explorateur à l'échelle du parc évidemment et pour aller découvrir des œuvres d'artistes émergents pour beaucoup c'est une exploration d'œuvres qui décloisonnent les formes et les genres.
C'est une nouvelle esthétique, c'est l'esthétique du numérique au fond. Il y a maintenant des artistes numériques, il y en a un certain nombre parmi eux. Il n'y a pas que ça dans cette exposition ?
Non, il n'y a pas que ça. Ce qui nous a intéressé, c'était justement d'avoir des artistes qui viennent d'horizons extrêmement différents, qui soient justement à la frontière du design, des arts plastiques, de la performance, et finalement qui re-questionnent aussi la position du spectateur, c'est-à-dire que le spectateur va aussi devoir se mettre en scène parfois dans ces installations, donc ça va certainement le bousculer aussi un peu.
Charles Carcopino, on a l'impression que toutes ces installations qui fleurissent et qui fleurissent en ce moment même dans le parc de la Villette sont basées sur un certain nombre de piliers. Il y a les piliers de l'art d'aujourd'hui, il y a l'immatériel déjà. L'immatériel doit être présent, j'imagine qu'il est omniprésent pour tous ceux qui vont découvrir cette exposition à partir du 25 mars.
Oui, tout à fait, c'est vrai qu'effectivement l'immatériel est un sujet qui est assez présent, presque les fantômes d'aujourd'hui que sont finalement les ondes, les hackers, des espèces de puissances presque qui deviennent presque occultes en fait.
Les algorithmes, les fréquences.
Exactement.
Ça obsède les artistes.
Ça les obsède parce que c'est vrai que c'est assez symptomatique finalement d'un monde qui est devenu assez incontrôlable où finalement.
Le monde dont parlait Paul Jorion tout à l'heure.
Ouais, c'est là où on se rejoint. Tout à fait. Et on a par exemple, je peux citer une œuvre de Cécile Beau et Nicolas Montgermont qui est une antenne en fait, qui vient capter justement toutes les ondes qui peuvent traverser aussi bien l'espace, aussi bien les ondes radio que les ondes des téléphones. Enfin, il y en a.
Et on les voit, les ondes?
Justement, elles sont retranscrites donc sur un écran géant. Donc là, on est vraiment sur une retranscription de l'invisible qui est rendue totalement spectaculaire.
C'est vrai que l'invisible, je parlais de l'immatériel, mais il y a l'idée de l'invisible aussi. Ça aussi, les artistes en sont friands.
Oui, c'est vrai que c'est également dans cette même veine, finalement, on a l'impression que
toutes ces choses qui peuvent totalement nous échapper. C'est-à-dire, on est dans un monde qui est accéléré totalement par la société est accélérée finalement par la vitesse de l'information. Et ce sont finalement des préoccupations aujourd'hui très très fortes chez les artistes.
Il y a l'interactivité aussi. On ne peut plus faire une exposition, j'imagine, vous qui êtes le commissaire de celle-ci. On ne peut pas faire une exposition aujourd'hui sans que ce soit interactif.
Alors on peut, c'est vrai qu'effectivement il y a eu un phénomène de mode assez important qui, je pense, rendait également aussi plus accessible. Les arts numériques ont été vus comme une façon aussi de populariser on va dire l'art contemporain, de rendre effectivement plus de s'ouvrir un plus jeune public, et effectivement qui a donc finalement rendu aussi la place du spectateur qui l'a vraiment ramené, qui ont été ramenés au centre en fait.
Là, il participe pratiquement à toutes les œuvres. Ce que j'ai pu en voir en vidéo.
Non, pas toutes non plus. Alors c'est vrai qu'il y en a une qui est assez emblématique. C'est cette structure géante à Ada, l'œuvre d'une artiste allemande qui s'appelle Karina Smigla-Bobinski, qui est donc, on rentre dans un espace tout blanc. Et il y a cette sphère gonflable, gonflée à l'hélium, donc qui flotte dans l'espace. Et elle est hérissée elle-même de fusains. Donc elle ressemble à une sorte de grosse cellule comme ça qui est en lévitation. Et finalement, le spectateur va comprendre qu'il va pouvoir agir sur elle. Et,
comme Charlie Chaplin dans le Dictateur pouvait agir sur le globe terrestre.
Voilà, là en fait, chacun des passages de cette sphère va finalement marquer aussi, griffonner l'environnement blanc qui petit à petit va se noircir et laisser donc des traces dans l'environnement et qui va se transformer. C'est une sorte de participation, en fait, d'implication du public dans une œuvre collective.
Il y a le côté ludique aussi, c'est pareil, il faut qu'une exposition soit ludique. Est-ce que celle-ci l'est ?
Alors, il faut pas forcément, mais c'est vrai que on a aussi l'ambition d'ouvrir le parc. Enfin, le parc de la Villette est c'est vrai que par définition, un parc s'adresse aussi aux familles, à tous les publics. On a envie d'exclure personne. Donc, c'est vrai que ce sont des projets qui sont aussi pensés, on va dire, qui offrent différents niveaux de lecture et d'accessibilité. Et effectivement, les enfants sont les bienvenus.
Le virtuel, ça fait partie des passions actuelles, et notamment chez les artistes. Alors, je crois que là, il y a cet article qui s'appelle Geoffrey Lillemont, et il y a des casques. On met le casque, et là, on voit quoi et on est où ?
Alors oui, la réalité virtuelle, qui est effectivement un grand sujet en ce moment, puisque ça va arriver à peu près partout. Ces casques, ils ont tous leurs produits, Google, Apple, Facebook, Oculus Rift.
Tous les enfants les attendent. Ils attendent de mettre le casque
impatiemment. Alors Geoffrey Lillemont, c'est un artiste vraiment atypique. Il est américain. Et moi, ce qui me plaisait beaucoup dans sa démarche, c'est que à l'inverse justement de tous ces univers virtuels qui sont quand même généralement très froids et très déshumanisés, on se retrouve seul chez soi, parce qu'à terme c'est quand même ce qui va se passer, d'avoir des personnes qui vont rester chez elles seules avec ce casque et partir dans un univers. Lui a décidé au contraire de mettre en scène le spectateur avec son casque, puisqu'il va devoir monter sur un trône, faire partie d'une installation qui va être très colorée et donc qui va être aussi soumis au regard du public. Et lui a choisi aussi une esthétique qui va à l'inverse, c'est-à-dire on est dans un strip club de science-fiction et on a affaire à des créatures glamour, hyper sexuelles. Ce qui va complètement à l'encontre en fait finalement de l'esthétique qu'on peut trouver dans les projets art numérique, qui est généralement glacé et déshumanisé.
Mickey, pourquoi votre groupe s'est appelé Mickey 3D ?
Parce que j'étais chanteur dans un groupe qui s'appelait 3DK et que mon surnom c'était Mickey, donc j'ai appelé ça Mickey 3D quand j'ai fait mon projet solo.
Donc ça veut dire qu'à l'époque c'était pas une allusion aux trois dimensions ?
Du tout, on a essayé de me faire dire plein. Non, du tout.
Aux imprimantes 3D.
Je pensais pas qu'on en parlerait un jour, donc voilà.
Non, voilà, vous aviez absolument rien prévu.
Ouais.
Il y a une vingtaine d'artistes dans l'exposition 100% Expo, Charles Carcopino. Il y en a un qui est très connu, c'est Xavier Vélan. Les autres le sont beaucoup moins. Ils ont quel âge en moyenne?
Ouais, une trentaine d'années. On a aussi invité deux écoles d'art, enfin, qui sont des studios d'art contemporain, comme Le Frénois et également la Rijksacademie d'Amsterdam. Pour justement, on a vraiment été chercher des artistes émergents, tout jeunes, qui sont finalement jamais venus aussi en France et dont le travail nous a paru particulièrement intéressant.
L'exposition 100% Expo, bah, si vous voulez savoir à quoi ressemble l'esthétique des arts numériques aujourd'hui, c'est le moment d'y aller. C'est du 25 mars au 10 avril. C'est à la Villette, donc pendant 3 semaines. Vous pourrez voir Xavier Vélan, Geoffrey Lillemont, Ludivine Cybel, Kate Kroll, etc., etc. Je vous remercie tous les 6 d'avoir participé à cette émission. Tourner en rond de l'art d'aborder les ronds-points, le livre de Jean-Michel Espitalier est paru aux Presses universitaires de France. Le dernier qui s'en va éteint la lumière. L'essai sur l'extinction de l'humanité de Paul Jorion, c'est chez Fayard. Je ne me souviens pas, le livre de Mathieu Lindon s'est paru chez POL. La collection Explora aux éditions de Glénat, dirigée par Christian Clos, donc fait paraître 3 albums ce mois-ci. Alexandra Davidnel, Les chemins de Lhasa, par Christian Périssin et Boro Pavlovitch. Rimbaud, L'explorateur maudit, par Philippe Thirault et Thomas Verguet. Et Darwin, à bord du Beagle. Cette fois, le scénario est de Christian Clos. Et le dessin est de Fabio Bonneau. Tout ça, c'est aux éditions Glénat. Et enfin, le nouvel album de Mickey 3D s'intitule « C'est beau la vie ». Et on vous retrouve un peu partout en France. Hein. Vous êtes en tournée.
En France, en Belgique, en Suisse pour l'instant.
Et vous serez le combien à Paris?
Le 15 avril, je crois, au Trianon.
Au Trianon, effectivement. Nous, on se retrouve demain dans un instant. C'est Europe Nuit avec Loïc Loury.